Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Marie Vallogne.
Bonjour, bienvenue dans HebdoCom. Vous aimez le marché de la pub, vous aimez déchiffrer la com des marques, et bien restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on vous parle de Peugeot. Le constructeur auto modernise son emblématique Lyon et dévoile une nouvelle identité de marque. HebdoCom s'intéresse aujourd'hui aux coulisses de ce changement. Mathieu Rioux-Chapman, directeur artistique de Peugeot, sera sur notre plateau dans un instant. Fêter les anniversaires de marque, c'est une de ses spécialités. Notre chroniqueuse Charlotte Bricard vous parlera aujourd'hui des 100 ans de La Vache qui Rit dans son édito. Et puis dans une vingtaine de minutes, on vous parlera de la créativité publicitaire sur mobile. Zoom sur un format qui capte de plus en plus les investissements pub. Nous recevons Pierre-Emmanuel Cross, le président de la Mobile Marketing Association France. Voilà le programme. Vous savez, avant ça, on démarre avec un tour de l'actu.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et on va parler écran mobile dans un instant, mais je vous rassure, ils ont bien coupé leur portable avant de venir en plateau. Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News, est avec nous. Bonjour Frédéric.
Bonjour Marie.
Et Julien Rizot de la rédaction de BFM Business. Bonjour Julien.
Bonjour Marie.
Julien, on commence avec votre coup de cœur de la semaine. Vous nous parlez de Free, les nouvelles publicités sur la 5G. Et Free nous l'assure, elles ne nous coûteront pas un bras.
Oui, hein, quand c'est mieux, c'est forcément plus cher. C'est un adage français qu'on entend bien souvent. Eh bien, l'opérateur télécom fait exception à la règle. Il propose de son forfait 5G au même prix que son forfait 4G. Alors, pour montrer sa différence, la nouvelle publicité nous plonge dans quatre histoires où l'homme paye toujours plus cher les innovations. On se retrouve par exemple à la préhistoire où un homme de Cro-Magnon découvre le feu. Alors, il fabrique des briquets dans des énormes pierres qu'il vend au plus offrant. Un couple s'avance, lui donne tout ce qu'il a. Insuffisant pour l'inventeur du briquet, la femme prête à tout pour avoir du feu, lui vend alors son mari. Dans un autre spot, on suit un footballeur, Rapidino, c'est son nom. Il vient d'être acheté par le patron d'un club. Alors si devant les caméras, les deux hommes sont fiers de cet accord, ils s'échangent dans leur dos d'importantes sommes d'argent. Le patron du club commence par donner un billet au sportif, puis il lui donne sa montre et lui fait finalement un virement de 500 millions d'euros. Une larme coule alors sur le visage du patron du club qui finit même par y perdre son bras. Une campagne signée Hérésie à retrouver sur les réseaux sociaux, à la télévision et sur le digital.
On poursuit, Julien, avec Uber qui donne un coup d'accélérateur à la vaccination. Elle n'est pas de moi.
Non, mais la plateforme de VTC s'engage et offre 20 000 courses pour emmener les personnes âgées et toutes les personnes vulnérables au centre de vaccination. Pour en profiter, il suffit de renseigner un code promotionnel lors de la commande de la course. Pour l'occasion, Uber et l'agence Buzzman lancent une campagne d'affichage composée de trois visuels sur un ton humoristique. On peut lire sur l'une d'entre elles, par exemple, dans la voiture, Mamie pourra même écouter Nova. Un petit clin d'œil pour ceux qui ne l'auraient pas compris, à la marque du yaourt. Ou encore, on peut lire sur une autre, En voiture, Huguette, Martine et évidemment Simone. Avec cette communication, Uber veut ramener un peu de légèreté dans un climat parfois oppressant. Les affiches sont visibles sur les réseaux sociaux, mais aussi déployées en presse et en digital. Et l'agence Buzzman le précise, à moins que vos grands-parents soient super connectés, nous comptons sur vous pour les aider.
Et on continue, on va parler mobilité encore avec la nouvelle publicité de VanMoof. Et alors, à en croire Julien, ce que vous nous avez dit ce matin, visiblement cette publicité elle rappelle ma chemise aujourd'hui.
Oui, c'est un peu plus coloré que dans celle précédente. Vous vous rappelez peut-être de la campagne de l'année dernière où VanMoof avait été interdit par la RPP, le spot jugé trop anxiogène et trop critique envers la filière automobile. Alors l'entreprise revient donc avec une nouvelle campagne réalisée cette fois-ci sous la forme d'un film d'animation au paysage psychédélique. On suit un personnage central, une grenouille qui se déplace à vélo. Elle est entourée de voitures qui klaxonnent et polluent énormément. Si les chauffeurs sont énervés, bloqués dans des embouteillages, la grenouille, elle, nage considérablement, totalement dans le bonheur. bonheur. Elle les convainc alors de se mettre au vélo électrique. Les routes goudronnées se transforment en chemins fleuris, colorés et merveilleux, avec cette publicité réalisée par l'illustrateur anglais Jim Stoughton et le studio d'animation Be Wilder. Van Moof met à nouveau en avant les effets positifs du vélo sur l'environnement.
Et avec de jolies couleurs, moi, je trouve. Oui. Frédéric, on va parler Peugeot dans un instant, mais vous nous parlez de voitures encore avant. Ouais. Vous parlez de Skoda.
Exactement.
C'est une émission mobilité aujourd'hui.
C'est ça, hein, voilà.
C'est ça. Automobile.
Et automobile, vélo, mobile, voilà, on fait couleurs, tout. Etc. Non, voilà. Moi, je suis plutôt dans une ambiance polar, regard lourd, musique un peu signifiante et un couple qui descend de sa voiture sous l'œil pour le moins menaçant de types qui n'ont pas du tout l'air tibulaires, ils ne sont pas tibulaires du tout. Et bon, tout ça va très bien se terminer, je préfère le dire, grâce à un système de portes qui évite de gâcher celle des autres. Et tout ça se passe surtout devant un bar qui s'appelle le Rosa. Et comme par hasard, le nom de l'agence, c'est
Rosa Park.
Voilà.
Comme par hasard.
Tout est pensé.
Merci Frédéric, merci Julien Rizzo.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
Quand un constructeur auto fait évoluer son logo pour illustrer sa montée en gamme, Hebdo.com s'intéresse au cas Peugeot ce week-end. Le directeur artistique de la marque, Mathieu Rioux-Chapman, est avec nous. Bonjour.
Bonjour Marie. Bonjour.
Alors, fini votre dernier logo de 2010 avec ce fauve debout et rugissant. Votre nouveau logo, il est en noir et blanc. C'est une tête de lion sur un blason. Il a un côté un peu très vintage. Quel était le cahier des charges pour dessiner ce nouveau logo ?
Bien, Marie, vous avez noté l'essentiel. Vous avez noté l'essentiel. En fait, le cahier des charges, la mission la plus forte que l'on s'était donnée, c'était d'arriver à déterminer le logo finalement qui aurait dû toujours exister et qui existera toujours. Donc bon, on caresse un doute et un doux espoir peut-être.
Vous n'étiez jamais satisfait des précédents alors ?
Si, bien entendu, ils ont tous rempli leur rôle et leur mission dans leur temps. Mais l'important pour nous, c'était d'arriver à faire en sorte d'arriver à déterminer un logo comme le Graal de toutes les marques. Toutes les marques recherchent ce Graal, c'est-à-dire un logo immuable, un logo qui est capable de traverser le temps. Quelles que soient les époques, comme Louis Vuitton, comme Apple, comme Coca-Cola, les grandes marques, ce qu'on appelle les hypermarques, ont cette capacité à rester, quelles que soient les époques. Et donc, nous, notre obsession, c'était non pas de faire un vernis de modernité d'aujourd'hui, mais d'être capable de déterminer, en fait, le logo qui aurait à la fois des réminiscences du passé et en même temps une capacité à se projeter dans le futur, mais qui soit capable de traverser le temps.
Et de fait, c'est le cas. Hein. C'est le 11e, c'est ça ? Je ne me trompe pas. Logo depuis 1850, non ?
55,
ouais. Ça, voilà, c'est ça. Et là, en fait, vous êtes un peu allé puiser dans l'histoire. Effectivement, il y a le... il est plus debout, on ne voit plus que sa tête, mais c'est un logo qui rappelle celui de 1960, dans sa forme en tout cas. Donc c'était pour vous l'apogée de la Peugeot 1960, c'est la 404, que je me gourre, ou à peu de choses près. C'est
absolument, Frédéric.
Vous reprenez l'histoire à ce point-là ?
Absolument, Frédéric. C'est-à-dire qu'en fait, bien évidemment, on a réinjecté, je vous le disais, une réminiscence de la marque. Pourquoi ? Parce que c'est important. Une marque qui a 210 ans, elle ne s'affranchit pas de son passé. Elle s'appuie dessus, en fait, effectivement, pour se projeter. Mais l'enjeu, c'est d'arriver à lui faire subir un traitement qui soit totalement contemporain, qui la mette en phase avec les résonances et les aspirations de nos contemporains, mais qui charge, malgré tout, tout son passé à travers son expression. Alors effectivement, comme vous le disiez, par rapport au logo qui était préalablement héraldique, c'est-à-dire de pied en tête, eh bien nous lui avons préféré effectivement une photo d'identité, c'est-à-dire que nous nous sommes rapprochés de son visage et nous avons cadré sur son visage pour un enjeu signalétique tout simplement. C'est qu'on repère mieux effectivement une personne à son visage que de pied en tête de loin. Voilà.
Et alors combien de logos ont été dessinés avant que vous vous disiez bon bah c'est bon, allez celui-là, on le lance, on s'arrête là-dessus?
Innombrable.
C'est 3 ans, c'est ça, vous avez mis... Enfin, le chantier a commencé il y a 3 ans.
Oui, la genèse du chantier s'est faite à peu près il y a 2 ans et demi, 3 ans, effectivement. Et alors, c'est comme dans tous les processus de création. Hein. On passe par 200 logos avant d'arriver à trouver le bon. Mais c'est pas 200 logos au hasard. C'est 200 logos en affinant et en recherchant toujours plus précisément notre intention. Et notre intention, c'est quoi ? Notre intention, c'est d'arriver à transmettre, à qualifier la montée en gamme de la marque. Pourquoi on a fait ce logo ? On a fait ce logo pour nous permettre de préciser notre positionnement, de faire en sorte qu'il soit évident. Après 10 ans de véhicules dont tout le monde salue la montée en gamme, il nous fallait en fait un signe qui soit capable de les endosser. Et donc ce signe, effectivement, il n'est que la résultante de cette recherche, de cette expression de montée en gamme. Alors, c'est à peu près effectivement 200 dessins. 200 dessins qui ont été réalisés par le Peugeot Design Lab.
C'est ça, c'est un studio interne.
Absolument.
C'était pour garder la main sur le rendu.
Absolument, c'était pour garder la main. Et puis c'est aussi parce qu'en fait, l'ensemble de ses collaborateurs en interne partagent une culture d'entreprise très très forte. Et donc du coup, on n'a plus besoin de leur raconter l'histoire, ils la connaissent l'histoire. Ils connaissent nos valeurs. Exigence, allure, émotion, ils savent comment travailler en fait ces valeurs.
Et donc, combien de personnes ont travaillé sur...
Au début, le spectre est très large, et puis petit à petit, on se resserre sur en fait un commando qui arrive tout simplement à affiner le sujet, et puis en relation directe avec le directeur du style, le directeur marketing, tous les acteurs qui ont bien évidemment un point de vue très intéressant sur le sujet.
Oui, parce que c'est fou. Le déjà pour une entreprise de quoi que ce soit, changer un logo, c'est quelque chose. Faut changer les façades, les papiers en tête. Vous, rien que sur une voiture, il y a combien de fois le logo ?
Alors, il est effectivement, il est présent à plusieurs endroits, à l'avant, à l'arrière, sur le volant, sur la clé, quelquefois sur une custode ou sur une aile. Donc effectivement, il est présent partout. Puis il est surtout présent sur toutes les pièces de la voiture. Mais bien évidemment, on l'a fait à la fois le logo pour la voiture, c'est l'essentiel. Et nos clients, en fait, arriveront d'ailleurs à trouver...
Sur la prochaine 308, c'est ça ?
Absolument. Dès la prochaine 308, vous pourrez voir le logo figurer sur sa calandre. Mais l'important pour nous, c'est cette vibration, vous l'avez dit, puisqu'il y a des réminiscences de passé. Associé à un objet ultra contemporain, ça génère un mélange détonnant. Voilà, c'est la vibration des deux. C'est une harmonie dissonante que l'on cherche. Vous savez, c'est comme en musique. On a deux tonalités qui pourraient paraître distinctes, mais dès qu'on les rassemble, ça crée une vibration particulière.
C'est une prise de risque, quand même, de changer son logo quand on a un tel héritage, quand on s'appelle Peugeot.
Oui, c'est une prise de risque. En tout cas, c'est de l'audace. Effectivement.
Quand vous le lancez, vous vous dites pas. Bon, on espère qu'on n'aura pas sur les réseaux sociaux, notamment aujourd'hui, de mauvais commentaires, de mauvais retours.
Ah, je sais pas lesquels vous avez lus, mais en tout cas, moi,
alors,
j'en ai lu.
Pour l'instant, j'en ai pas lu. Mais justement, est-ce que avant justement de lancer ce logo, est-ce qu'on a un petit peu peur justement des retours qui pourraient arriver ?
Oui, bien entendu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on travaille une marque qui est au cœur de tous les Français. Vous savez que c'est l'une des marques les plus plébiscitées en France, l'une des plus appréciées, et pas uniquement en France. Dans le monde entier, en Europe, vous voyez, en fait, on a réussi à augmenter toutes nos parts de marché dans une période de Covid extrêmement difficile, toutes nos parts de marché à travers le monde, hormis la Chine. Et on a des pays aujourd'hui comme l'Espagne ou le Portugal où nous sommes numéro un. Donc, c'est une marque qui est au cœur, en fait, de ces publics. Et donc, bien évidemment, quand on joue avec une marque qui est au cœur de tous les publics, on touche de la nitroglycérine. Alors on fait très très attention, bien sûr. On affine les gestes, on affine la chose. Voilà pourquoi ça prend du temps.
Ce que vous nous dites un petit peu aussi derrière tout ça, c'est que le groupe Stellantis résiste bien à la crise. Ça fait partie un peu de votre propos aussi.
Alors, bon, il ne m'appartient pas de commenter les résultats du groupe Stellantis, vous l'avez compris, mais bon, j'espère que mon sourire vous renseignera. Voilà, qui en tout cas, aujourd'hui, hier, nous avons annoncé des résultats qui sont pleinement satisfaisants. Et voilà, je me réjouis de faire en sorte que notre top management a réussi à déterminer un projet qui est en très 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 bonne voie.
Frédéric. Et
du coup, un logo comme ça, vous en êtes d'ailleurs tellement content que vous faites un film, c'est l'occasion aussi de lancer une campagne de pub. Il y a un film qui a été fait par en plus votre nouvelle agence Open. Donc c'est pas juste un changement de logo, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une affirmation d'un positionnement. Il y a un film, il y a des affiches, il y a des gens, il y a des nouveaux lions. Voilà, je veux dire, c'est vraiment une affirmation.
C'est ça qui évolue.
Absolument. Et vous savez que en fait, les consommateurs, d'abord, ils sont capables de décoder une marque en une fraction de seconde. Nos consommateurs sont devenus des experts. En une fraction de seconde, ils sont capables de se dire cette marque, elle est ringarde, elle est pas ringarde. En une seconde. Et donc, du coup, ils le font pas uniquement à travers le logotype, ils le font à travers l'ensemble d'un territoire. C'est un territoire qui peut être à la fois graphique, iconographique, mais aussi publicitaire. C'est tout le territoire qui accompagne le lancement de nos produits. Bien évidemment, les produits, c'est la cœur, c'est la base sur laquelle on s'appuie. C'est la base parce que c'est la base de notre crédibilité. Mais ensuite, c'est tout l'univers de marque que l'on projette avec, qui passe effectivement à travers le travail d'agence. Alors, il y a des agences comme W qui nous ont aidés sur le territoire graphique et iconographique, et l'agence Open que vous avez citée, qui est un consortium de talents à travers le monde, qui nous aide en fait à positionner la marque et à faire en sorte surtout qu'elle ait un décodage universel, puisqu'en fait c'est un consortium d'agences qui fait travailler des talents du monde entier.
Alors Renault vient aussi de changer son logo, mais on en parle beaucoup moins. Pourquoi chez Peugeot on en parle plus ?
Pourquoi est-ce qu'on en parle moins chez Renault que chez Peugeot ?
Chez Peugeot, il y avait une volonté vraiment de communiquer.
Je m'interdirai les commentaires sur Renault, mais en tout cas pour ce qui est de Peugeot, on a la volonté effectivement, comme vous l'évoquiez Frédéric, de rendre les choses pédagogiques, à la fois les rendre communicantes, mais aussi de les rendre pédagogiques vis-à-vis de l'interne aussi, et puis vis-à-vis de nos publics. Pourquoi ? Parce que quand on parle de positionnement et de montée en gamme de la marque, il s'agit absolument pas, par exemple, de monter les prix. Il s'agit de générer plus de valeur. Quand on change un logotype, notre obsession, c'est la création de valeur. C'est de la création de valeur intangible. Tout à l'heure, je vous citais des grandes marques, ce qu'on appelle les hypermarques. Le capital des marques, la valeur intangible, c'est le plus beau de leurs actifs. C'est là-dessus, c'est le plus important pour eux. Donc, bien évidemment, nous, dès qu'on commence à travailler sur l'actif de notre marque, on cherche à communiquer le plus possible. Et c'est surtout aussi parce que, comme tous les territoires changent, je vous le disais, du digital aux concessions, aux showrooms, où tout devient plus intuitif, plus simple, plus constant, où il y a plus de consistency en anglais, plus de cohérence et plus de consistance, effectivement, tous ces éléments participe de la lecture et de la lecture, tout simplement du décodage qui se veut affiné jusqu'au bout des doigts sur tous ces supports, sur tous les touchpoints de la marque.
Merci Mathieu Rioux-Chapman d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur artistique de la marque Peugeot.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Un édito signé Charlotte Bricard de CB News. Bonjour Charlotte.
Bonjour Marie.
Alors Charlotte, on le sait, vous aimez bien les anniversaires de marques. Récemment, vous nous parliez d'une vache violette avec l'anniversaire de Milka. Aujourd'hui, on continue avec les vaches. Cette fois-ci, elle est rouge. Vous nous parlez des 100 ans de la vache qui rit.
J'ai rien de fétichiste pourtant. C'est vrai que 100 ans, c'est pas rien. Ça valait la peine d'être mentionné et ça vaut la peine aussi d'en parler. C'est ce que fait le groupe Bell d'ailleurs depuis quelques temps, puisqu'il communique massivement en télé notamment, en faisant l'apologie du rire ou à travers un mini-site qu'ils ont créé pour fêter ce centenaire qui s'appelle Un rire, un don.fr qui nous invite à enregistrer nos rires et la marque s'engage de son côté à offrir une visite d'un duo de clowns dans un hôpital pour enfants malades chaque fois que 4 rires sont enregistrés. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est encore temps de prendre le taureau par les cornes.
C'est une blague nulle, mais c'est pour la bonne cause.
Absolument. C'est ça. Alors l'an dernier, la marque avait quand même commencé à préparer ce virage. C'était offert un petit coup de jeune signé de l'agence Team Créatif pour à la fois passer ce cap et pour arborer un profil plus international puisqu'elle est présente dans 136 pays. Ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas tant que ça, tant le bovidé n'est pas coutumier du fait puisque son dernier coup de bistouri datait de 1985. L'illustrateur Benjamin Rabier, à qui l'on devait le logo initial, n'a pas dû voir rose justement puisque la couleur, vous le disiez, n'a pas été touchée.
Le même Benjamin Rabier qui avait fait Gédéon, l'ancêtre de la BD française, quoi.
Celui-là même, c'était en 1922 en l'occurrence que Léon Bell lui a demandé de dessiner les traits de la plus célèbre vache de France. Alors, pour recontextualiser, nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale, Léon revient à la maison. Léon, c'est le fils de Jules Bell, des fromageries du même nom, et la maison, c'est dans le Jura. Il y trouve des caves pleines de meules qu'il faut absolument couler prestement, youplaboum, il les fait fondre, il les met en boîte et il les découpe en portions. Je dis ça comme si c'était évident, ça ne l'était pas du tout, des idées comme ça, on ne les trouvait pas sous les sabots de n'importe quel cheval, ni de n'importe quelle vache à l'époque.
À mon tour de faire une blague pas vraiment drôle, n'importe quelle vache, peut-être une vache qui rit ?
Tiens dans un tonneau, c'est rigolo. Pardon. Il décide donc de reprendre l'emblème de son régiment, Léon. La RVF, le RVF, ravitaillement en viande fraîche. À l'époque, il faut savoir que le flanc des véhicules revêtait les dessins de ce qu'il transportait. Et donc, le chef du régiment avait demandé à Benjamin Rabier d'imaginer le leur. Et le dessinateur avait croqué une vache hilare. Et c'est à cette vache qui riait que Léon Bell a rendu hommage avec son fromage. Mais savez-vous pourquoi la vache qui rit, rit, Marie ?
Écoutez plutôt.
Oui ?
Pourquoi la vache qui rit, rit ?
Parce qu'on a une migration postérieure du bord antérieur de la branche horizontale de la mandibule, suivie de la contraction de la peau névrose
interne. Ok, alors la vache qui rit, mais on ne sait toujours pas pourquoi.
Voilà, on ne sait toujours pas pourquoi, non. La question a fait couler beaucoup d'encre. Elle a inspiré une mini-saga publicitaire au début des années 2000 qui était présentée comme un micro-trottoir dans laquelle chacun y allait de sa petite idée. Celle qui circule le plus souvent est que c'était pour se moquer de la Valkyrie, ennemie, autre jeu de mots pourri, mais ce n'était pas le mien. Ce que je peux affirmer en tout cas, c'est que le fromage fondu est une sacrée bête de com'. Une balade au musée des arts déco et du musée de la publicité en particulier quand il sera ouvert vous permettra par exemple de revoir les premières pages de publicité filmée de la marque. Elle date des années 50. Elles sont signées Paul Grimaud, par exemple. Et la marque le revendique volontiers la vache qui rit et trendsetter en la matière. Elle était première en sponsoring sportif, on l'a vu sur la caravane du Tour dès les années 30, première en radio, première en télé. On ne compte plus les goodies qu'elle a pu éditer, des albums d'images à collectionner en passant par les thermomètres à l'époque où le mot goodies n'existait pas encore. Rien d'étonnant donc à ce qu'on la trouve aujourd'hui sur TikTok et surtout à ce qu'elle continue de plaire autant et de recruter de nouvelles cibles. Pour l'anecdote, on dit qu'il s'écoule 125 portions de ce fromage à part par seconde dans les 136 pays du monde où elle est distribuée.
Oh la vache.
Je ne vous le fais pas dire.
Nous sommes en très grande forme aujourd'hui. Allez, tout de suite, le Zoom. Merci Charlotte Bricard.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Zoom sur la créativité publicitaire sur mobile, une créativité bousculée. Nous recevons Pierre-Emmanuel Cross, le président de la Mobile Marketing Association France. Bonjour.
Bonjour.
Alors, les investissements publicitaires sont en hausse sur les écrans mobiles, mais la créativité est-elle bien au rendez-vous? Qu'en pensez-vous?
Elle se développe. Elle se développe, c'est indéniable en fait. On a, vous en avez parlé à l'association, à la Mobile Marketing Association, on a lancé le deuxième Mobile Creativity Award cette année qu'on a remis le 11 février dernier. On a de plus en plus de candidatures sur les différentes catégories que nous avons et elle se développe et surtout aussi grâce à la prise de conscience que aujourd'hui les consommateurs et les citoyens passent la majeure partie de leur temps devant leur écran mobile. Et bien sûr la télé est encore là, mais ça fait depuis 2019 que le temps passé sur mobile est supérieur à la télé au niveau mondial. Il est de 4 heures, un peu plus de 4 heures au niveau mondial. Il est de près de 3 heures en France.
Oui, d'accord. Le truc, c'est qu'on a l'impression que les créatifs d'agence, qui doivent pourtant, comme tout le monde, et même peut-être plus que tout le monde, passer leur temps sur le mobile, l'intègrent pas dans leur manière de bosser. Parce que on se faisait la réflexion avec Marie, la plupart des créas que nous on reçoit, elles sont en largeur, c'est des créas en fait de films. Donc comment est-ce que on va faire pour avoir une créativité vraiment mobile, c'est-à-dire penser dès le début pour le mobile?
Alors, elle se développe énormément, vous avez raison Frédéric de préciser que les agences commencent à prendre, on va dire, possession des spécificités de l'écran d'un mobile. Mais En vrai, ça se développe énormément. Il y a beaucoup d'offres publicitaires qui sont dédiées au mobile.
Et qui ne sont pas simplement une adaptation d'un film télé qu'on a remis en vertical.
Voilà, donc il y a beaucoup de contenus qui sont développés 100% pour le mobile. Il y a beaucoup de formats qui sont adaptés. Il y a encore des annonces, là, en début de semaine, de nouveaux formats qui ont été lancés spécifiquement pour le mobile, dans le domaine de la vidéo, dans le domaine de l'audio également. Donc il y a une vraie diversité des formats qui se développent. Et on voit de plus en plus d'agences et de créatifs qui soient effectivement, dans la plupart du temps, adaptent leur création, leur réflexion stratégique de créativité sur le mobile, mais on voit aussi l'inverse qui se développe de plus en plus. On voit des marques qui commencent à créer d'abord sur l'écran mobile.
D'accord.
Alors, comment fait-on pour retenir l'attention quand on fait une publicité sur le mobile, alors qu'on est quand même dans un contexte où les gens saturent un peu toute cette publicité?
Justement, d'abord, en prenant en considération les spécificités de l'écran mobile, donc effectivement, il faut adapter la création. Donc, il y a toute l'industrie.
C'est-à-dire, comment ça se passe? Comment on fait?
Le format, il est tout simplement pas le même. Frédéric l'a dit, quand on est en télé, je crois qu'on est en 16/9, on est à peu près, c'est un petit peu différent, mais pour faire simple, à peu près en 4 tiers, comme l'ancienne télé, plutôt carré, sur le mobile. Donc les marques aujourd'hui doivent penser à concevoir leur format de ce type-là.
C'est-à-dire pour que l'utilisateur n'ait pas, c'est ça, à tourner son portable?
Oui, par exemple, et puis surtout que les parties soient bien intégrées sur le mobile qu'on regarde, qui est en fait un écran vertical.
C'est comme ça qu'on retient mieux l'attention.
Disons que déjà, il faut l'adapter. Ensuite, il faut faire attention à l'intrusion. Parce que, évidemment, dans notre industrie, bien sûr, il y a beaucoup de débats sur la traçabilité, sur le tracking, etc. Mais on est très attentif aussi à l'intrusion. Et donc, de proposer un message publicitaire qui permette aux consommateurs d'avoir envie de le regarder ou de le consommer, tout simplement. Et c'est là qu'on voit les nouveautés qui arrivent dans les nouveaux formats qui sont en train de se lancer. D'ailleurs, encore une annonce, il n'y a pas plus tard qu'hier, sur le marché. Donc, d'abord, je dirais que c'est ça. Donc, l'adapter sur l'écran, l'intrusion ensuite. Après, il y a effectivement un certain nombre de campagnes. On a primé sur la partie display, puisque vous avez parlé beaucoup d'automobiles aujourd'hui, une campagne Opel pour Mocha qui a été développée avec le modèle Mocha qui a été développé avec Mediacom et l'agence Mozu, où ils ont fait une réalité augmentée du modèle, puisqu'on ne pouvait plus aller les voir en concession. Donc sur le mobile, on peut aller très très loin.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que au-delà de le format, etc., le fait aussi que c'est souvent silencieux parce qu'on a plutôt tendance à pas trop mettre le son sur mobile, ou en tout cas peut-être moins que...
C'est une fonctionnalité, on peut la lancer.
Voilà, exactement. Mais vous avez, enfin, le mobile donne aussi la possibilité, des possibilités techno qui n'existent pas sur les autres supports, quoi.
Oui, absolument. Donc justement, ça permet pas mal d'innovations. C'est pour ça qu'on a voulu...
Quelles innovations? À quoi vous pensez, par exemple?
Justement, la réalité augmentée dont j'en ai parlé, le podcast... les publicités audio qui se développent énormément. On voit beaucoup de sociétés qui se développent sur ce sujet. Donc là, par exemple, on a remis un prix à Acast pour sa campagne avec American Express et son agence média UM. Donc c'était une campagne tout à fait intéressante pour la diversité de ses services et de ses différentes cartes. Donc aujourd'hui, il y a toute cette palette de formats dans le retail, dans la vidéo, dans le display, donc les formats publicitaires plus classiques, dans lesquels il peut y avoir de la réalité augmentée. Alors, mais
le,
aussi
le display, je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, toutes les publicités quand on navigue, hein, c'est ça, celles qui s'affichent.
Celles qui s'affichent, on va dire une création publicitaire qu'on a l'habitude de voir, hein, tout simplement.
Alors, donc, cette publicité, elle est de mieux en mieux, elle est de mieux en mieux adaptée. Mais vous avez quand même, alors, pas seulement vous, mobile, mais il y a un petit, il y a quand même quelques menaces ou en tout cas soucis qui arrivent sur le terrain qui sont le renforcement de la protection de la vie privée, la suppression des cookies, ça vous dégêne un petit peu moins. Vous êtes prêt pour ces
Disons que le marché se prépare. Ceci étant, nous bien sûr, dans toute notre industrie, et je suis représentant d'une association interprofessionnelle, on est regardant et on fait bien sûr attention à la protection de la vie privée des consommateurs. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est la privatisation de la privacy ou du coup de la réglementation de la protection de la vie privée des consommateurs. Et là, on est en instance auprès de l'autorité de la concurrence contre Apple et la révision de leur système de operating system, pardon, de l'iPhone, qui révise derrière le tracking et qui propose un système tout à fait, on va dire, unilatéral sur la disposition. Donc on attend les conclusions de l'autorité de la concurrence. On a été audité il y a une dizaine de jours, pendant toute une journée. Nos recommandations et arguments ont été plutôt bien reçus. J'espère qu'ils suivront notre recommandation.
Et on suivra ses conclusions. Merci Pierre-Emmanuel pour être venu sur le plateau d'Hebdo.com aujourd'hui, le président de la Mobile Marketing Association France. Merci à Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News, d'avoir été fidèle au poste. Très bon week-end à tous sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.